Les évêques du Congo et les autres dans la région disent que cette nouvelle milice ne tombe pas du ciel, qu'il y a des intérêts derrière. Et ils ont très spécifiquement dénoncé la volonté d'accéder à tout prix aux ressources naturelles de l'est du Congo. En particulier, on trouve beaucoup de tantalite qui sert à fabriquer nos téléphones et nos ordinateurs portables. Donc, ils disent clairement que la source principale de ce conflit est l'accès aux minerais. Maintenant, il y a une deuxième raison qui est ancienne et qui est celle de la volonté du Rwanda d'étendre son espace. Ils ne peuvent peut-être pas annexer une partie du Congo, donc occuper une partie du Congo, créer un autre État dans cette région et puis peut-être un jour créer une fédération ou bien annexer tout simplement. Mais les Nations Unies, pour la première fois, ont reconnu, à travers des rapports d'experts, l'implication du Rwanda et de l'Ouganda dans la mise en place et le développement du M23. Et les évêques demandent clairement à ces pays d'arrêter et de se respecter l'intégrité territoriale du Congo.
Et pourtant, la semaine dernière, aux côtés du président congolais, les présidents ougandais et rwandais ont appelé à la fin de l'offensive. C'est un discours de façade.
Oui, c'était considéré comme une grosse blague à Kinshasa. Le président Kabila a effectivement rencontré à Kampala les deux présidents rwandais et ougandais, mais plus personne ne croit aux annonces et aux décisions qui peuvent être prises par ces deux présidents. Donc ça contribue à jeter de la poudre aux yeux, c'est tout.
Comment la population réagit-elle face à ce conflit? Il semblerait qu'une partie de la population soutienne le M23.
Oui, ce sont les anciens RCD Goma. L'armée congolaise dans cette région est composée en partie d'anciens miliciens proches du M23, qui ont refusé d'être complètement mixés, comme disent les Congolais, à l'armée nationale et d'être envoyés dans d'autres régions du pays. Donc ils ont voulu rester chez eux, là où ils avaient exercé des exactions contre les populations civiles. Comment voulez-vous que cette armée-là, qui est cousine du M23, empêche le M23 de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire d'essayer de conquérir un espace? Le projet du M23 n'est pas très clair, derrière lui du Rwanda. Est-ce qu'ils veulent, comme ils le disent, aller jusqu'à Kinshasa pour renverser Kabila et installer Mekwa? Ou bien simplement, ils veulent occuper un espace qui serait les deux Kivu et peut-être le Maniema au nord et s'installer définitivement là.
Ils l'ont dit, ils veulent le départ du président Kabila.
Oui, mais tout ça, c'est une mascarade. Et dans l'appel des évêques d'Afrique, il est clairement dit, non pas seulement les miliciens, les acteurs du M23, mais leurs commanditaires, ceux qui planifient, doivent être visés et doivent arrêter. C'est clairement le pouvoir rwandais et le pouvoir ougandais. Et dans l'histoire, il faut se souvenir que le président rwandais a été à l'état-major de l'armée ougandaise pendant de nombreuses années et que l'Ouganda l'a aidé à rentrer au Rwanda à partir de 90 et à achever la conquête du pouvoir en 94. Donc ce sont des frères qui s'entraident. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a tous ces minerais riches. Voilà, donc la tentation est très forte, ce n'est pas nouveau. Ils exploitent déjà ces minerais. Tout ce qui quitte le Kivu passe par le Rwanda ou l'Ouganda pour sortir. Et on voit dans les budgets du Rwanda ou de l'Ouganda les ressources que représentent ces matières premières qui ne sont pas les leurs.
On a du mal à voir une issue à cette crise. Quelle pourrait être la solution? Y a-t-il un pays ou plusieurs pays qui pourraient véritablement jouer un rôle de médiateur?
Je ne vois pas très bien. Le Rwanda vient de rentrer au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2 ans. L'offensive du M23 en ce moment n'est peut-être pas par hasard, par rapport à ce calendrier d'ailleurs. La solution, je pense, peut venir en partie du secteur des matières premières. Si les compagnies du secteur extractif disent au gouvernement rwandais, au gouvernement ougandais, qu'elles sont prêtes à collaborer encore plus, mais dans un cadre légal et pas dans un cadre illégal comme c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'elles ont un levier important entre les mains. Et il ne faut pas les négliger dans la recherche de solutions à ce conflit. Pour ce qui est de pays qui pourraient influencer le Rwanda et l'Ouganda, je pense que dans le monde anglo-saxon, les Américains, les Anglais en particulier, qui ont soutenu les yeux fermés les Rwandais après le génocide parce que l'Occident s'est senti coupable d'avoir laissé faire ce génocide, s'ils ouvraient les yeux et qu'ils acceptaient de regarder la vérité et la réalité, ils pourraient sans doute influencer les présidents rwandais et ougandais. L'Union africaine a peut-être aussi un rôle à jouer, mais on voit qu'ils sont embourbés dans des conflits d'intérêts entre États, donc ce n'est pas très simple. Mais en tout cas, les évêques du Congo demandent clairement que tout s'arrête, quoi. Depuis 1998, ça fait 15 ans de guerre, en particulier dans l'Est, et on sait pourquoi cette guerre existe. Donc il faut vraiment agir sur les causes pour qu'elle s'arrête.